nzamba
nzambira samirana
Le journal avec Franck Kadze.
Les titres pour entamer cette édition, les chiffres de cas positifs au Covid-19 montent en flèche et le milieu scolaire semble en première ligne. Le président de la République l'a critiqué pour sa gestion calamiteuse de la régie des eaux et pourtant c'est le même chef de l'État qui vient de le nommer à la tête du programme de développement de l'énergie et des mines, des infrastructures et du logement. L'Olicom crie son indignation face à cette nomination de l'ancien directeur général de la régie des eaux. Frais d'encadrement des stagiaires ou encore primes basées sur les performances, voilà certaines des revendications du personnel de l'hôpital de Muyinga qui menace de durcir le ton si cet argent n'est pas versé d'ici le 20 janvier. Voilà pour les principaux titres de ce journal du 16 janvier 2021. Innocent Koubimana tient les manettes. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Commençons ce journal par ces quelques brèves sur la sécurité. Un homme a été tué ce samedi au quartier Numgé, zone Maranvia, commune Burambi, en province Rumangé. Selon des sources sur place, l'homme qui portait le prénom de Com faisait partie des groupes armés qui semaient la sécurité dans cette commune et ses environs. Les mêmes sources précisent que le nommé Com a été retrouvé grâce au téléphone d'un autre homme nommé Proté, alias Kagame, qui avait été arrêté vendredi pour appartenance à ces mêmes groupes. De nombreux coups de feu ont été entendus dans cette zone, causant un mouvement de panique dans la population. Le corps sans vie d'un homme du nom de Bareke, qui résidait sur la colline Bihogo, commune Gasogwe, en province Muyinga, a été découvert vendredi matin, suspendu sur une corde attachée à un arbre. Selon des informations en provenance de cette colline, l'homme se serait suicidé. Toutefois, rien ne filtre encore sur les mobiles de cette mort. Certaines parentées, quant à elles, avancent l'hypothèse d'un assassinat. Selon cette même source parentale, Bareke aurait été tué ailleurs avant d'être pendu. L'année dernière, une dizaine d'autres personnes ont été retrouvées pendues dans différentes communes de la province Muyinga. Un homme connu sous le nom de Leonidas Nghemani, habitant à Gitwe, commune Kayanza et province Kayanza, a été assailli et blessé grièvement à coups de poignard par des inconnus. L'incident s'est produit dans la nuit de ce vendredi à samedi, selon des sources sur place. La victime a été attaquée par les assaillants dans sa boutique où il passait la nuit. Puis, après l'avoir poignardé, les malfrats ont volé une somme d'argent dont le montant n'est pas encore connu. Les mêmes sources font savoir que la victime a été vite évacuée par les voisins vers la structure de soins la plus proche. La police dit avoir déjà amorcé les enquêtes afin que les auteurs de cet acte soient appréhendés.
Rôle de l'État dans la prévention de la COVID-19. À travers le ministère de la Santé publique, le gouvernement devrait élaborer des stratégies de prévention et de gestion de la COVID-19, à savoir une identification rapide des cas suspects, un isolement immédiat dans l'attente des tests, une prise en charge clinique sécurisée, créer des zones d'isolement avec un effectif de personnel suffisant, établir des canaux de communication entre les établissements de santé et les autorités de santé publique. Contrôler régulièrement l'application des mesures barrières pour la prévention de la COVID-19.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agateka Kawe,
en partenariat avec Internews, financé par l'Union européenne.
Je vous le disais dans les titres, les chiffres des cas positifs au Covid-19 ne cessent de monter, même dans les milieux scolaires. Le petit séminaire de Cagnoche enregistre des dizaines de cas après un cas qui a été annoncé à l'école fondamentale de Ruziba 1 dans la mairie de Bujumbura jeudi dernier. D'autres cas sont signalés au sud du pays et au nord à Kayanza avec près de 50 cas ou encore dans certaines communes de la province de Makamba qui compte plus de 70 cas dont des élèves et des enseignants. Révérien Bazikamwe.
Après des tests au petit séminaire de Kanyosha jusqu'au soir de ce vendredi, 60 cas étaient positifs. Nos sources n'ont pas su la suite des autres résultats qui étaient attendus. Certains de ces élèves auraient été évacués vers des hôpitaux pour des soins. Jeudi dernier, le directeur de l'école fondamentale de Luziba 1 a alerté sur un cas positif sur son école, même s'il aurait été contraint d'annuler cette alerte. À Kayanza, jusqu'au jeudi, des sources sur place affirmaient que 34 cas étaient positifs parmi les tests y effectués. D'autres 15 cas positifs ont été signalés ce vendredi vers midi et le test a continué. Mais nos sources n'ont pas parvenu à savoir la suite. Au lycée Domoaro, 4 élèves sont hospitalisés à Kibumbu après des tests qui sont revenus positifs au COVID-19. Selon des sources au lycée Domoaro, c'est ce samedi qu'une équipe médicale s'est rendue au lycée pour effectuer des tests parmi les contacts des malades. Et à Makamba, le journal Igihe, au moins 79 personnes ont été testées positives au COVID-19. Ils sont des communes de Mawanda, Nyanzarake et Vugizo. Parmi ceux-ci, des élèves et des enseignants des écoles de ces communes ont été testés positifs.
Révérien Bazikamwe, on vient de l'apprendre à l'instant, 34 cas positifs ont été détectés ce samedi au lycée Mungaro. Il s'agit de cas parmi les cas contacts de 4 autres élèves qui, eux, ont été testés positifs et évacués à l'hôpital jeudi où ils sont sous traitement depuis. La situation est tendue entre le personnel de l'hôpital de Muyinga et leur directeur. Dans une correspondance que le personnel a écrite à leur chef jeudi, ils menacent de recourir à des mesures qu'ils qualifient de fortes si l'argent qu'ils réclament n'est pas versé d'ici le 20 janvier. Les agents de l'hôpital réclament entre autres les frais d'encadrement des stagiaires ainsi que les primes basées sur les performances. Le point avec Audace Nimbona.
C'est par un sentiment de regret que s'ouvre la lettre, d'autant plus que ce n'est pas pour la première fois qu'ils réfléchissent ensemble, et des fois avec le directeur de l'hôpital Muyinga, dans le but d'apporter des solutions aux difficultés qui se remarquent au sein de cette structure de santé. À l'issue des rencontres, aucune décision n'est mise en application, s'insurge le conseil médical de l'hôpital Muyinga. Deux questions qu'il qualifie de bombe à retardement constituent le nœud de la lettre. Il s'agit en premier lieu des frais d'encadrement des stagiaires alloués aux encadreurs des étudiants. L'année 2020 s'est écoulée sans que personne n'obtienne son dû. La deuxième question soulevée dans cette correspondance, c'est le financement basé sur les performances. Ils viennent de passer des mois et des mois sans en apercevoir les frais. Le conseil médical de l'hôpital de Muyinga dit être au courant que cet hôpital a obtenu de la part du gouvernement une somme de 500 millions de francs bou dans le but d'appuyer le dit financement. Seul le personnel de l'hôpital Muyinga n'est pas encore motivé, alors que les voisins et collègues de l'hôpital Gitelani et celui de Gachoho, je cite, chantent Alléluia, fin de citation. Le corps médical de l'hôpital Muyinga exige que la lumière soit faite sur les frais d'encadrement des stagiaires et que la totalité du financement basé sur les performances soit attribuée au personnel tel que planifié par le comité de gestion et que l'argent soit versé sur les comptes individuels au plus tard le mercredi 20 janvier 2021. Si rien n'est fait, des mesures plus sévères seront prises, conclut la correspondance.
Audace Nimbona. L'ancien directeur général de la Régie des Eaux, Siméon Abonimana, vient d'être nommé directeur du programme de développement de l'énergie, des mines, des infrastructures et du logement. Une nomination contre laquelle s'insurge l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Le LUCOM dit ne pas comprendre comment cet homme qui a été tant critiqué par le président de la République pour sa mauvaise gestion de la Régie des Eaux a été désigné pour un tel poste. Selon Gabriel Oufsiri, président de l'OLUCOM, Siméon Abonimana aurait plutôt dû se retrouver devant la justice. Écoutez Gabriel Oufsiri.
Qu'est-ce avoir analysé ce décret? Il y a un nom qui a attiré notre attention. C'est le nom de l'ex-directeur général de la Régie des Eaux qui a été vivement critiqué par le président de la République Burundi, le général Evariste Ndayishimiye et le premier ministre Bunyoni, ou à travers d'abord le président de la République du Burundi lors de sa conférence publique vers la fête du mois de décembre, c'est-à-dire il y a quelques semaines, il a montré que tout le monde, a commencé par le directeur général de la JDZO jusqu'au plateau, que tout le monde à la JDZO est voleur. Il a montré, détaillé, noir sur blanc, que tout le monde est corrompu et détourné des deniers publics. À la régie des eaux. L'ORICOM, après avoir vu ce décret, nous sommes dit que peut-être le nom d'Osiméo qu'on a vu sur ce décret, on a pensé que peut-être c'est à notre nom semblable, mais après avoir vu les commentaires des conseillers du président sur notre compte Twitter, finalement, nous avons vu qu'il y a un grand problème de vision dans notre pays, un problème d'éthique aussi, parce que au regard des propos, des discours, des messages qui ont été donnés par ces plus hautes autorités du pays par rapport aux dirigeants de la JDZO, il est vraiment inconcevable d'entendre que dans moins d'un mois, le même individu est nommé aux plus hautes fonctions de l'État.
La vie n'est pas facile pour les demandeurs d'asile burundais vivant dans les villes rwandaises. Le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi se focalise sur les difficultés auxquelles ils font face. C'est avec Thierry Vigilindavi.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjouya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Deux ans viennent de s'écouler sans que l'OICR n'effectue un enregistrement de demandeurs d'asile au Rwanda. Le dernier enregistrement date de mars 2019. L'enregistrement qui était prévu au mois de mars 2020 a été reporté à cause de la crise sanitaire due à l'épidémie de COVID-19. Quelles sont les difficultés de ces sans-papiers résidant dans les villes du Rwanda? Que fait la représentation des réfugiés pour venir en aide à ses compatriotes en difficulté? Comment est-ce que le ministère qui a les demandeurs d'asile dans ses attributions gère ce problème? Voilà quelques questions que va essayer de répondre ce mini-magazine au cœur de la société tout au 16 janvier 2021. À la présentation, c'est Thierry Bigilindavi. Soyez les bienvenus.
À la mode des réfugiés, vous ferez tout pour leur plaire.
La plupart de ces demandeurs d'asile au Rwanda qui n'ont pas encore été enregistrés sont de nationalité burundaise. Ils résident à Kigali, Nyamata, Huye et ailleurs. Emile Nibasumba de la radio RPA s'est entretenu avec certains d'entre eux et lui ont parlé des difficultés auxquelles ils font face.
Par exemple, tu ne peux pas décrocher un travail sans document. On rate certaines assistances de la part des amis ou des proches à cause de ce manque de documents. Même si la vie est difficile, quand l'on est reconnu comme réfugié, l'on peut s'adapter et survivre.
Quand on tombe malade, c'est quasiment impossible de trouver les frais de santé. Pour nous qui souffrons des maladies chroniques, dans les structures de santé, l'on nous demande une caution de 10 000 francs par mois. Comment pouvons-nous obtenir un montant pareil?
Si on parvient à avoir un emploi quelconque, l'employeur exige l'ouverture d'un compte et cela est impossible parce qu'on n'a pas de pièces identificatrices reconnues par le gouvernement hôte qui nous a accueillis. Se faire soigner demande un parcours un peu long, mais il y a des médecins qui sont chargés de soigner les réfugiés, mais ils nous arrivent un peu tard parce que et aussi doivent suivre le processus fixé par le gouvernement.
Au micro de Bertang Ndakurio de la radio Inzamba, le représentant des réfugiés urbains, Patrice Nadohoka, explique que la représentation des réfugiés est au courant de cette situation et qu'elle a déjà saisi les autorités compétentes.
nous essayons de plaider pour eux. Et aussi, quand il s'agit de donner des documents, de signer des documents qui permettent à ces demandeurs d'asile de se déplacer sans difficulté, nous intervenons très rapidement. Ils éprouvent évidemment beaucoup de difficultés puisque pour des soins de santé, par exemple, ils ne peuvent pas se faire soigner. Mais je viens d'adresser une lettre au HCR et au MINEMA pour demander qu'ils organisent un enregistrement dans des circonstances telles que nous vivons, en essayant de programmer un nombre limité pour lutter contre, pour éviter la contamination sur cette pandémie de COVID-19. Et j'attends impatiemment la réponse, mais aussi je dois préciser qu'il y a aussi des gens qui sont venus, mais qui ne se sont pas fait inscrire au niveau du bureau du HCR à Nyarutarama. Et ceux qui se sont fait inscrire, qu'on peut retrouver dans la base de données, quand on essaie de plaider pour eux, ils bénéficient de certains services parce qu'ils sont déjà enregistrés. Et donc, chaque réfugié ou demandeur d'asile, quand il arrive, il doit se faire connaître au niveau des services du HCR.
Les informations en provenance de MINEMA, le ministère en charge de la gestion des situations d'urgence au Rwanda, indique que ceux qui demandent l'asile doivent attendre l'issue de l'analyse de leurs dossiers. Selon le MINEMA, les dossiers des demandeurs d'asile sont analysés par le comité qui en est chargé cas par cas. Et c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 16 janvier 2021. C'était Thierry Biguinindavi à la présentation. À la prochaine.
À la mode des réfugiés, vous ferez tout pour leur plaire.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci à vous Thierry Vigilindavi ainsi qu'à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ce mini-magazine. Et pour terminer, voici la revue de la presse hebdomadaire. Elle vous est présentée par Jean-Baptiste Villéard.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est au moment de suivre la revue de presse de ce samedi à la présentation Jean-Baptiste Bileha, qui peut piloter l'aigle titre hebdomadaire indépendant Iwachu. À quelques jours du congrès du sein des DFDD prévu le 24 janvier, les spéculations vont bon train sur le choix du futur dirigeant du parti au pouvoir. Quatre candidats sont pressentis pour ce poste révélien d'Ikuliyo. L'homme à la parole brute, âgé de 50 ans, son natif d'Okayogolo en province Makamba, a rejoint la rébellion du sein des DFDD en 1995 alors qu'il était étudiant à l'université du Burundi à la faculté des sciences. Révélien d'Ikuliyo a connu une ascension politique fulgurante. Il a occupé plusieurs postes politiques. Comme à tout, la présidence de la Fédération du football du Burundi lui donne une certaine influence auprès d'une partie de la jeunesse. Il a un grand soutien des Bagumyabanga de sa province. Comme faiblesse, plusieurs observateurs du parti estiment s'endure dans ses discours trop directs et peu diplomates. L'autre nom cité par Iwachu est celui de Zeno Dalvukanye. Il est parmi les premier à intégrer la rébellion du sein des DFDD. Il est très respecté au sein du parti. Comme faiblesse, il est natif de la province de Bujumbura, tout comme l'actuel président du Sénat. L'autre nom avancé est celui de Victor Boluko, qui est natif de la commune Gachoro, c'est Amuyinga. Cet infirmier de formation a été le vice-président du sein des DFDD. Comme à tout, il se serait distingué par son abnégation en soignant les blessés. Iwachu relève comme faiblesse le temps qu'il vient de passer à Léala, qu'il éloigne de certaines réalités au sein de son parti. Vient ensuite Anastase Manelambona, natif de la commune Boussoné en province d'Okirundo. Il est considéré comme un modéré et ancien maquisard. Il est actuellement secrétaire national chargé de l'idéologie, mobilisation et diaspora au sein du parti sein des DFDD depuis 2016. Comme à tous, c'est un ami personnel du président de la République, Evariste Ndayishimiye. Comme faiblesse, les militants d'Okirundo sont divisés sur son cas. Vient enfin Sylvestre Ndayizeye, natif d'Okarusi. Aujourd'hui, il est commissaire chargé des ligues affiliées au parti au pouvoir. Son parcours d'ancien combattant plaide également en sa faveur. Comme faiblesse. Une partie des militants au sein du parti voit d'un mauvais œil son ancienne proximité avec Hussein Rajabu. Un ravin creusé par les eaux de ruissellement menace la chaussée du peuple Murundi près du pont Nahangwa, écrit le quotidien gouvernemental ABP Info. Selon ce quotidien, c'est sur l'avenue du peuple Murundi, tout près de la rivière Nahangwa, en face du stade hôtel en mairie de Bujumbura. Un ravin creusé par les eaux de ruissellement menace sérieusement cette chaussée si rien n'est fait dans l'immédiat pour le protéger. Selon cette agence gouvernementale, le passant rencontré sur le lieu demande à l'État de réhabiliter ce ravin dans l'immédiat car la chaussée risque d'être coupée, ce qui causerait un dommage énorme à la circulation des passagers. Une longévité inhabituelle au Burundi, malgré ses 108 ans d'âge, Erasme Bishinze, encore bon pied, bon œil, bien qu'il soit encore lanterne rouge sur l'échelle mondiale de l'espérance de vie, 60 ans selon la Banque mondiale, le Burundi n'en est pas moins un pays de miracles vivants avec les super centenaires à l'œil encore vif. Parmi ces fossiles vives figurent un certain Erasme Bishinze, natif de la commune Mugamba, province de Bululi. Âgé de 108 ans, il vit aujourd'hui dans sa maison de retraite Siza Gasekebouya, commune urbaine d'Omuha. Après l'école primaire d'Omatana, il est allé poursuivre ses études secondaires à l'école médicale d'Obouye en province de Ngozi. Infirmier de formation, il a presté à l'hôpital d'Obouye et à l'hôpital d'Omatana jusqu'à l'âge de la retraite. Il est aussi dans le film Gitolenga, le premier long métrage sorti en 1992 d'Ongaboléonce. Il a joué le rôle père de Guito. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que mettons un point final à cette revue de presse que j'ai eu le privilège de vous présenter. Je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à Innocent Kobyimana pour sa partition technique, ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un agréable week-end sur nos ondes. Surtout, portez-vous bien.